Radio Barque, notre deuxième partie avec notre invité Ludovic Roux. Alors, Ludovic Roux, on a parlé de la Chambre d'agriculture que, normalement, si tout se passe bien, vous allez présider très très prochainement. En tout cas, vous êtes déjà en plein dedans puisque vous avez évoqué, présenté et évoqué un programme. Alors, on va vous demander déjà, comme si vous étiez installé, quelles seront vos priorités?
Ben écoutez, on va déjà essayer de respecter un petit peu ce qu'on a dit pendant le programme. Donc la priorité sera de regarder comment on peut actionner des leviers pour retrouver de la rentabilité. Donc ça va être notre priorité. Une fois qu'on dit ça, parce que c'est très très vague, il faut aller voir ce qu'on peut actionner le plus rapidement possible. Donc il y a un aspect politique qu'il va falloir mettre en avant et structurer, c'est la défense des cultures méditerranéennes. Puisque nous avons un changement climatique qui nous impacte au plus haut point en zone méditerranéenne et chez nous, c'est prouvé par les experts, on est une des régions du monde les plus impactées, et donc on doit absolument trouver des solutions pour s'adapter à ce changement climatique. Donc la PAC sert à atténuer les disparités, qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales, entre les pays, entre les régions, et donc une des premières actions sera de travailler à la défense de ces cultures méditerranéennes pour qu'on arrive derrière à avoir des financements pour investir et même des financements pour les exploitants directs comme peuvent l'avoir par exemple les éleveurs sur l'ICHN, indemnité compensatoire du handicap comme son nom l'indique.
Oui. Là c'est un petit peu nouveau dans la politique agricole commune, la PAC. Cette notion, non, ou c'est un renforcement?
C'est un renforcement et c'est un peu nouveau. Disons que le handicap était vu plus jusqu'à maintenant par rapport à des pentes, donc une zone de montagne, comparé à des zones de plaine. C'était vu sur l'agronomie et la capacité de la terre à faire des rendements ou pas. Là, on va rajouter cette notion de zone méditerranéenne sèche. Donc, il va falloir qu'on argumente le fait qu'il y a beaucoup moins de pluie, beaucoup moins de pluie en tout cas pendant des périodes de plus en plus longues. Mais finalement, globalement, il va a priori, d'après les experts, pleuvoir à peu près autant, sauf qu'on aura des périodes de sécheresse plus longues, avec des températures qui vont exploser l'été. Au contraire, des températures l'hiver beaucoup plus douces, ce qui pour nous, certaines de nos cultures n'est pas une bonne chose. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte, et donc on va devoir, nous en tant que chambre d'agriculture, le démontrer à l'aide d'études qui ont été faites, et on va devoir aussi en tant que politique défendre cet aspect-là pour après avoir, je vous dis, des budgets pour investir. Et donc déjà au niveau européen, il commence à y avoir des lignes qui bougent, donc pour la future PAC, on peut espérer être entendu. Donc ça, ce sera dès le départ quelque chose qu'on va continuer, parce qu'on avait déjà commencé, mais on va beaucoup accentuer dessus, aussi parce que c'est le moment où la prochaine PAC se négocie, et donc c'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur. Après, il y a un dossier que tout le monde connaît, et ce que je viens de dire l'introduit, c'est le dossier de l'eau. Donc évidemment qu'il faut de l'eau pour cultiver, il faut aussi de l'eau pour abreuver les animaux, il faut de l'eau pour boire, donc de l'eau potable. Donc nous, on défend capacité à ce département à gérer l'eau. Donc le mot gérer est très important. Donc pour gérer, il faut avoir de la ressource. On estime, et il est clair qu'il y a suffisamment de ressources dans le département. Par contre, il faut arriver à la capter à l'endroit où elle est, au moment où elle y est, pour après la redistribuer sur tout le territoire.
Donc là, parce que le problème un peu de ce pays, c'est que l'eau, c'est parfois trop ou pas assez.
Tout à fait. D'ailleurs, on parlait en aparté du SMAR, qui, lui, doit gérer le trop et le pas assez, et souvent le trop, d'ailleurs. Et donc, nous, on va se concentrer sur essayer de participer à la création d'ouvrages qui, par exemple, quand il y a trop d'eau, puisse capter l'eau de pluie pour remplir des réserves. On va aussi travailler sur la capacité à faire des forages. Donc notre idée, c'est de dire, plutôt que de laisser faire des forages sauvages, organisons les choses pour qu'il y ait des forages collectifs où l'on puisse vérifier que la veine avec l'eau ne soit pas un lien direct avec une source qui ensuite est utilisée pour l'eau potable.
Oui, parce que ces forages, c'est parfois une matière d'inquiétude pour certains.
Tout à fait, et l'inquiétude est totalement légitime, puisque nous, en tant que citoyens, évidemment, on privilégie l'accès à l'eau potable. Par contre, aujourd'hui, on a des techniques, hein, des gens qui ont la compétence de savoir d'abord si l'eau que l'on va puiser est en lien direct ou pas avec des sources d'eau potable. On a des techniques qui permettent de savoir où en est la réserve souterraine. Donc, évidemment, si on se rapproche d'un seuil critique où on risquerait de la sécher, ben, il faudra arrêter de puiser. Mais donc, nous, on veut vraiment sortir d'un certain dogmatisme où on dirait non à tout. On ne veut pas rentrer dans quelque chose qui serait à l'inverse, la foire, où tout le monde ferait des trous partout sans plus de contrôle. On veut au contraire co-construire avec les personnes concernées sur les territoires pour apporter des solutions, parce qu'encore une fois, même si on travaille beaucoup sur la recherche, le développement, l'adaptation de nos cultures, à un moment donné, il faut un minimum d'eau. Alors, de l'eau de pluie, c'est le mieux, et après, de l'eau d'irrigation. Donc ça va être un gros travail sur tout le territoire, et je redis aussi pour l'abreuvement des animaux. Parce que s'il n'y a pas d'eau pour abreuver les animaux, on perd l'élevage.
Et notamment, voilà, toutes ces parts. Puisque, rappelons-le, il y a quand même de l'élevage dans le département de l'Aude.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner, puisque bon, je peux pas vous donner tout le programme sur l'eau, je pourrais en parler encore pendant plus longtemps, mais voilà, vous avez compris le principe.
Les forages, mais quid de ce qu'on appelle les retenues collinaires? L'expression est un peu à la mode.
Oui, ben écoutez, nous, là pareil, on ne fera pas de dogmatisme, on porte des projets déjà aujourd'hui, certains sur des forages, certains sur des retenues collinaires. On soutient les initiatives qui font comme la région d'aller chercher l'eau du Rhône pour un Aquadomitia 2, sachant qu'on travaille à finir l'Aquadomitia 1 pour arriver jusqu'à l'Aure Minervois et finaliser l'Aquadomitia 1. On travaille sur des mix entre forage et retenue collinaire. Je pense qu'il faut s'interdire aucune solution du moment qu'on le fait de façon collective, avec un vrai partage de l'eau, une vraie gestion de l'eau, et qu'on qualifie dès le départ les priorités, et qu'on a cette capacité à la gérer, et donc on s'est donné les moyens de la gérer. Ça me paraît primordial. Et donc, je disais, par exemple, pour l'élevage, on va essayer aussi de repérer, parce qu'on va pas changer le monde, malheureusement, hein, en claquant des doigts. Par contre, il y a des sujets sur lesquels on peut avoir quelques effets positifs. Donc, par exemple, si on prend l'élevage, il y a deux, trois gros sujets pour eux. Premièrement, il y a l'abattoir de Quillan, qui est le dernier abattoir du département, et donc on parle de circuit court, on parle de rentabilité. Si demain il n'y avait plus d'abattoir, ça serait une catastrophe. Donc ça va être, dès le départ, une priorité de consolider cet abattoir. Donc on va participer à ça, pas tout seul évidemment. Il y a une problématique, un peu comme pour nous les êtres humains, avec la désertification au niveau des médecins. C'est pareil pour les vétérinaires. Mmh. Donc là aussi, je suis pas un expert, mais j'ai un collègue qui participera, qui sera le président de la commission élevage, qui lui a des idées, et donc on va travailler pour trouver des solutions pour que tout éleveur dans l'Aude puisse avoir accès à un vétérinaire compétent et suffisamment proche, en tout cas en temps, pour intervenir. Et on a un sujet qui est lié même à d'autres cultures, qui est le sujet par exemple des prédateurs, du loup.
Oui, paraît-il, il y a quelques loups qui font ou qui refont surface, paraît-il.
Tout à fait. Donc nous, on part du principe qu'il faudra arriver à aider les agriculteurs, dans le mieux les analyser quand il y a des attaques de loups, et on appelle ça éduquer le loup, c'est-à-dire que le loup va devoir comprendre qu'il y a certains endroits, il ne faut pas qu'il y vienne, sinon il risque beaucoup pour sa vie. Et les pays où ça a été mis en place, et bien on se rend compte qu'il y a une vraie cohabitation, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des zones forestières où le loup vit sa vie, et des zones d'élevage où le loup ne vient jamais, parce qu'il sait que s'il vient, il aura un problème. Voilà, on appelle ça éduquer le loup. Donc il va falloir qu'on trouve ces ajustements, et la Chambre est là pour porter des messages positifs.
À propos d'animaux, il faut comparer ce qui est comparable, mais quid du sanglier? Parce que là, ce n'est pas quelques individus.
Donc là, j'allais y venir, puisque après, on a d'autres cultures, et sur quasiment toutes les cultures, on a une grosse problématique de dégâts de gibier, au sens large. Alors, le sanglier, c'est emblématique parce qu'il y en a partout, mais il y a aussi des cervidés qui sont énormes,
oui, et qui arrivent à passer au-dessus. Oui, aussi, dans quelle zone?
C'est plutôt alors il doit y en avoir dans la Montagne Noire et puis Pays de Sceaux aussi.
Oui, aussi. Voilà. Et qui font des dégâts aussi.
Et qui font des dégâts énormes. Enfin, moi, j'ai un collègue qui avait mis des pommes de terre de façon professionnelle et qui avait mis un Ursus. Enfin, c'est un grand grillage tout autour. Alors, les sangliers n'arrivent pas à passer. Par contre, les cervidés arrivent à sauter, à passer par-dessus et il a récolté aucune pomme de terre.
Ah oui, à ce point-là.
Tout à fait. Donc, on a un gros, gros problème de dégâts de gibier. Donc, ça, c'est un sujet que je ne peux pas aborder en deux minutes, mais la réalité, c'est
que. Et vous avez besoin des chasseurs aussi.
Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il y a une diminution du nombre de chasseurs qui est due à la sociologie, au fait qu'il y a moins de gens qui chassent. Il y a de plus en plus de garrigues, enfin, de friches
friches,
où ces animaux peuvent se reproduire. Donc moins de chasseurs, donc aussi moins de capacité financière à indemniser. Donc je pense qu'il va falloir traiter le sujet de façon globale, c'est-à-dire faire diminuer les populations d'animaux, parce que sinon on va se retrouver avec des sangliers en centre-ville. C'est arrivé dans beaucoup d'autres départements.
Oui, paraît-il, oui.
Et moi je dis souvent, là aujourd'hui on dit « Oh, le pauvre sanglier », le jour où le sanglier aura attaqué un enfant, je pense qu'on pourra en reparler. Donc on va avoir une gestion de la population de ces animaux à avoir, mais aussi une gestion de comment on indemnise les agriculteurs de façon cohérente, alors avec un système d'indemnité, système d'assurance, je ne sais pas, il faut être ouvert à toutes les possibilités. Ce qui est certain, c'est que là, on arrive à une situation catastrophique où il y a de plus en plus de dégâts et on a de moins en moins d'indemnités, donc les agriculteurs ne vont pas y arriver. Et plus comme il y a de moins en moins d'agriculteurs dans des territoires, il y a de plus en plus d'animaux.
Donc, il y a un déséquilibre qui s'accentue,
c'est
finalement.
Ça. Donc là, on a vraiment besoin d'un choc, on va dire, et de trouver des solutions. Donc ça va être une aussi de nos priorités. Après, il y a des filières comme les grandes cultures, où il va falloir qu'on réadapte aussi les semences, enfin les... l'assolement, parce que moins de pluie, donc
oui, là encore la sécheresse, même relative dans ces zones-là, se fait ressentir.
Voilà, c'est ça, et donc ça demande de changer certains assolements pour continuer à irriguer, certes, mais de façon raisonnable, puisque de toute façon la ressource n'est pas extensible. En même temps, il faut trouver de la rentabilité, donc on va devoir aller chercher des filières. Donc mes collègues des grandes cultures ont fait un gros, gros travail depuis 3-4 ans sur la culture du chanvre pour le textile, je crois, si je dis pas de bêtises.
Et donc, oui, trouver des cultures alternatives.
C'est ça. Et c'est très prometteur. Donc, les grandes cultures vont avoir un gros travail à faire là-dessus.
Ce qui nous amène, alors, par enchaînement, à l'arrachage. Alors, c'est pas forcément la tâche de veiller là-dessus, c'est pas la tâche de la Chambre d'agriculture, mais en tant que viticulteur, forcément, vous avez un regard là-dessus.
Tout à fait. C'est la dernière grande filière dont on peut parler par rapport à notre programme. La viticulture est en souffrance depuis maintenant au moins 5 ans, hein, à cause de beaucoup d'aléas. Que ce soit les aléas climatiques avec le gel de 2021, que ce soit des aléas économiques avec l'inflation terrible que l'on attribuerait à l'Ukraine, à la guerre en Ukraine, mais bon, peu importe, il y a une inflation terrible. Les problèmes commerciaux avec la taxe dite Trump aux USA, la Chine qui a plus ou moins décidé de moins consommer de vin quand même, hein, et donc on avait un gros marché là-bas. Donc enfin voilà, il y a 5 ans qu'il y a une grosse souffrance en viticulture. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le dénigrer, une consommation qui évolue. Donc moins de consommation par personne en volume. Par contre, des consommations plus qualitatives dans des moments voilà, où les gens veulent déguster un bon vin. Une consommation qui, géographiquement, devient de plus en plus large, puisqu'il se consomme de moins en moins en France. Mais au niveau mondial, même si là, il y a un petit tassement, on voit qu'il y a des nouveaux pays qui viennent consommer du vin.
Il y a des nouveaux marchés.
Il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent. Donc ça demande une adaptation. Bon, malheureusement, parfois, on ne s'adapte pas assez vite. Hein, ça, c'est comme dans la nature. Et donc, l'arrachage est une conséquence de tout ça. Et donc, le travail de la Chambre va être de chercher des solutions, de répertorier déjà tous ces arrachages et de chercher des solutions alternatives, si on en trouve, parce que ça va être très complexe, pour qu'il y ait de l'agriculture sur ces zones et qu'elles ne s'enfrichent pas. et surtout, mais on en parlera peut-être à la troisième partie, trouver des solutions pour que le monde viticole retrouve de la rentabilité et que cette hémorragie s'arrête enfin.
Eh bien, on marque effectivement, vous avez raison, Ludovic Roux, une seconde pause.